Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la précarité étudiante avec différentes diffusions de témoignages émanant du monde étudiant.
J'ai à présent le plaisir d'accueillir Aurane Maigre-Bellisio. Elle a 19 ans, elle est à l'Université de Tours, elle est en deuxième année d'histoire géo. Bonjour Aurane.
Bonjour.
Alors, je souhaitais avec vous aborder la question de la charge mentale. Vous m'aviez parlé de charge mentale en préparant cette émission. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs auditrices en quoi consiste cette charge mentale ?
Ce que j'entendais, ou ce qu'on peut entendre en tant qu'étudiant en charge mentale, c'est tout ce qui va tourner autour de la charge de travail et de la privation de toute interaction, en fait. Du fait qu'il faut se dire qu'en fait on doit tenir avec en gardant un certain rythme alors qu'on est toujours dans le même environnement et que on voit personne.
La charge de travail par rapport à l'année donc 2019-2020 que vous aviez faite en présentiel, est-ce qu'elle a augmenté cette charge de travail?
Je sais pas si elle a augmenté en termes de volume. Je pense qu'elle a augmenté en termes de difficulté. Parce que justement, en fait, vu qu'on n'a plus d'interaction avec les profs, le cours devient plus compliqué à suivre parce qu'on est toute la journée derrière notre ordi. On n'a pas cet échange prof-élève qui est super intéressant et qui aide à comprendre pas mal de choses du cours. Et que du coup, en fait, ça facilite le travail à la maison et ça fait une partie du boulot qu'en fait, on doit faire tout seul. De notre côté et avec notre organisation. Donc je pense que c'est ça qui est compliqué. Je pense que la charge de travail n'a pas augmenté. On n'a pas forcément plus de travail, mais on doit travailler plus pour en fait réussir à suivre les cours comme on pourrait les suivre en présentiel.
D'accord, donc c'est un déficit de pédagogie, de méthodologie.
C'est un peu ça, oui.
D'accord.
C'est un petit peu ça.
De motivation aussi, c'est toujours intéressant, j'imagine, quand on est étudiant-étudiante, de se dire que voilà, il y a une personne qui est qualifiée pour nous transmettre son savoir et cette motivation aussi qu'on peut trouver chez certains professeurs qui donnent envie d'apprendre.
C'est ça aussi, oui.
D'accord.
C'est on a en face de nous souvent des chercheurs qui sont très qualifiés, qui savent ce qu'ils racontent et qui, quand on a une interaction avec eux, sont passionnants. Ce qui manque derrière un ordinateur, c'est qu'on a déjà, quand on fait des classes de 90 élèves, on n'a pas ce contact, on n'a pas ce privilège de pouvoir voir le professeur et de pouvoir l'interrompre dans le cours, de lui dire qu'on n'a pas compris ou lui demander de répéter. Et on est chacun en fait dans notre environnement, dans notre zone de confort, ce qui fait qu'on a je trouve qu'il y a une inégalité en termes de rapport, parce que certains ont des conditions plus faciles que d'autres pour bosser, et ça se ressent surtout sur la motivation des gens.
Alors concrètement, comment il se passe ces cours en distanciel avec les professeurs qu'est-ce qu'ils vous transmettent?
Ça se passe exactement comme un cours. Comme un cours normal, c'est-à-dire que quand c'est un cours magistral, le prof est derrière et on se contente de tapoter sur son clavier pour essayer de suivre tout ce qu'il dit, en essayant des fois de l'interrompre en lui disant qu'il va trop vite, parce que pareil, quand un prof il est en présentiel avec des élèves, il sait qu'il va trop vite quand il voit qu'on est complètement paumé. Là, il le voit pas, donc on doit lui dire. Et pour les travaux dirigés, parce que moi j'ai pas de travaux techniques. Je pense que les profs, ils mettent toute la bonne volonté du monde pour essayer de nous faire un cours qui n'est pas magistral, mais ça reste compliqué parce que le TD, c'est avant tout de la pratique, de la méthodo, et un truc typique que nous on fait, de la méthodo pour des commentaires, des dissertations. Le prof passe dans les rangs, disant non, tu devrais rectifier ça, il faudrait revoir ça. Là, il peut pas le faire, donc c'est plus compliqué.
D'accord. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, le professeur, depuis les décennies et les siècles qu'ils existent, évidemment, ils ont une raison d'exister, et notamment cette dimension humaine de transmettre le savoir, mais également de faire preuve de pédagogie envers leurs élèves. Est-ce que entre élèves, vous arrivez à vous motiver? Est-ce que vous échangez sur les difficultés que vous rencontrez les uns les unes les autres?
Alors, quand on a eu la chance de faire des amis, entre guillemets, dans nos groupes, oui, on arrive à échanger, on communique beaucoup, on s'envoie les cours, on essaye de se soutenir entre nous en disant que bah, on essaye de se voir quand même, on travaille ensemble, on se réserve une heure pour bosser sur telle ou telle chose. Et quand on a la chance d'avoir ces interactions-là, c'est plus facile. Après, je sais qu'il y a plein d'élèves qui n'ont pas justement la chance d'avoir un groupe forgé, ou alors qui sont un peu dans une licence où ils ont été un peu catapultés dans cette licence, et ça reste compliqué de suivre et de se faire des amis ou des camarades. Donc il y a des élèves qui sont très isolés, et pareil quand je pense à mes copains qui habitent en campagne, c'est assez compliqué parce qu'ils sont très isolés et que ben il y a plusieurs mois où on n'a pas pu se voir, et donc du coup pas forcément se soutenir de la même manière.
Est-ce que vous arrivez quand même à vous voir entre jeunes étudiants? Parce que c'est important, ça aussi, la vie étudiante, j'allais dire, après les cours, où, alors on va penser que c'est seulement faire la fête, mais c'est également faire des rencontres, c'est découvrir d'autres filières au gré de ces rencontres, découvrir d'autres manières aussi de percevoir le monde au gré de ces rencontres. Comment ça se passe?
Effectivement, c'est un truc qui est vraiment important dans la vie étudiante, de réussir à sortir, de se dire bon bah on va boire un coup, puis finalement en fait on rencontre plein de gens de plein d'autres filières parce qu'on est tous au même endroit, on s'enrichit beaucoup. On arrive à se voir de temps en temps, mais ça reste plus compliqué parce que ben il n'y a pas la vie étudiante comme on pourrait l'imaginer. Il y a les restaurants, les bars sont fermés, les endroits, les lieux de rencontre, les lieux culturels sont fermés. Et je pense que c'est ça qui doit nous manquer beaucoup aussi, parce que se dire que ben on est jeudi soir et qu'on va boire un coup entre copains et qu'on va potentiellement rencontrer des gens qui font de la bio, de la géo, qui font plein d'autres trucs, c'était une source de motivation de se dire c'est le souffle de la semaine, c'est la petite pause et on s'y remet demain. En attendant, on discute, on arrive à se voir, mais ça reste compliqué. Pareil, pour vu qu'on est un peu des quatre coins de la France, c'est compliqué parce qu'il y a des étudiants qui peuvent pas se permettre de forcément rester à leur appart pour plein de raisons différentes. Donc, ils sont chez leurs parents ou ailleurs et qui, du coup, ne voient pas les autres parce qu'ils sont isolés. Et donc, c'est compliqué.
C'est plus d'efforts avec moins de réconfort. Les uns les autres. Vous parliez de la pression. Est-ce que entre étudiants et étudiantes, justement, vous avez des angoisses, j'ai envie de dire, enfin, genre, je sais, le mot est peut-être un peu fort, mais quant à l'avenir, justement, de cette année en cours, l'année 2020-2021, qui va se conclure vers mai-juin, normalement, c'est la période à laquelle se déroulent les partiels. Vous êtes confiant? Comment ça se passe?
Je pense qu'on doit avoir tous les mêmes angoisses là-dessus. Le fait qu'on ait des cours en distanciel nous permet pas d'avoir toute la méthode et toute la pédagogie, ce qui fait qu'il nous manque pas mal de choses. Mais les professeurs, c'est pas qu'ils n'en tiennent pas compte, c'est qu'ils se rendent pas forcément compte de ce qui nous manque ou de nos déficits vu qu'ils nous ont pas en cours. Et du coup, ils adaptent pas forcément les épreuves. Et je pense que le fait de dire est-ce qu'on va voir notre semestre ou pas, est-ce que c'est assez ce qu'on a lu, ce qu'on a fait, est-ce que j'ai assez bossé, est-ce que tout simplement en fait on va réussir à suivre sans se dire que c'est plus facile de rester au lit que de se lever travailler pour réussir son semestre. Je pense que c'est toutes ces angoisses là qui nous tiennent. Le fait de dire que se démotiver c'est très facile parce qu'on a plein de gens dans notre entourage qui arrêtent tous les jours. le fait de réussir son semestre, de se dire qu'on n'aura pas forcément trop de choses à rattraper ou qu'on va pas forcément avoir un gros déficit au niveau de l'année prochaine quand on va rentrer. On est censé avoir des acquis. Est-ce qu'on va vraiment les avoir? C'est tout ça, quoi. Le niveau.
Oui, je comprends la motivation. Il y avait toujours les TD où le professeur faisait l'appel traditionnel. Non, c'est bien ça. C'est facile derrière son écran d'allumer l'ordinateur, de faire acte de présence. On peut imaginer aussi que tous ces élèves, alors j'ai connu le monde étudiant, qui bavardaient au fond de l'amphi ou en TD, pouvaient être rappelés à l'ordre par le professeur et du coup être remotivés, se rappeler pourquoi ils étaient là, évidemment pas pour discuter mais pour travailler. C'est vrai que toutes ces dérives, je ne les blâme pas, mais sont tout à fait possibles grâce à cette interface des écrans. Je me pose pas mal de questions par rapport à, ça va être un peu compliqué, mais je vais prendre le temps de m'expliquer, à cette perte de sens avec le réel. Alors, le sens visuel, bien évidemment, d'un tableau pendant le cours, mais j'allais dire aussi les interactions qu'il peut y avoir avec un professeur que l'on peut interrompre, ou qui peut voir que justement ça bavarde au fond de la classe, ou qui peut voir une interrogation dans les regards des élèves, ou encore qui peut voir que les élèves n'arrivent pas à suivre, un manque de sens visuel, auditif, et puis tactile également, parce que j'allais dire le bon vieux crayon, papier, la pièce de 2 euros qu'on met pour reprendre un café, puis faire des rencontres, etc. Comment vous le vivez aussi, cette perte de sens, j'ai envie de dire, à cause des écrans?
Je vais utiliser le terme robotisé parce que je trouve que ça nous pas mal. Parce que quand on n'a pas forcément, moi personnellement dans ma licence, j'ai pas cours de 8h à 18h comme on pourrait avoir en prépa. Mais on est très tôt devant notre écran et on y reste très tard pour bosser. Et en fait, on bouge pas. Et quand on a trouvé une position ou un endroit d'une pièce dans laquelle on se sent à l'aise pour travailler, le truc c'est qu'on n'en décroche pas et on reste toute la journée derrière notre écran. Et donc du coup le plaisir de faire les allers-retours, d'aller en cours, de voir un prof qui s'agite devant nous parce qu'il est trop content de nous raconter ce qu'il fait, c'est des choses qui nous manquent et qui sont on a l'impression qu'on a un peu oublié tout ça parce que le prof, il est pareil, il est assis derrière, il est comme nous, il est assis derrière son ordi, puis il bouge pas parce que c'est un ordinateur, donc l'écran fait que on peut pas avoir l'interaction qu'on a avec en présentiel. Et je pense que c'est, comme vous dites, cette perte du réel qui nous démotive beaucoup parce que c'est vraiment simple de prendre son ordi, de rester dans son lit et d'écouter le cours dans son lit. C'est plus compliqué en revanche de se dire je me lève un peu avant, j'essaie de garder un rythme, je me prépare, je me mets tranquillement devant mon écran, dans un endroit où je suis au calme. C'est des choses qui, en fait, c'est des réflexes qu'on a, des réflexes de simplicité qu'on a en se disant je reste dans mon lit, qui font qu'on perd ce réel et qu'on perd cette envie d'étudier. De se dire qu'on fait le trajet en écoutant de la musique et qu'on a vraiment un espace de décompression entre chez nous et la fac, qu'on va voir un prof qui fait plein de gestes devant nous parce qu'il est passionné et qu'il va écrire plein de trucs au tableau et qu'on va essayer tant bien que mal de le suivre. On vit dans la facilité en ce moment et je ne pense pas que les étudiants ont besoin de ça.
Bien sûr, bien sûr. Et je sais pas, mais j'imagine, la jeunesse a toujours eu plein de ressources aussi, d'énergie. Est-ce que vous avez trouvé des solutions entre vous pour justement, maintenir un minimum d'activité physique et d'interaction sociale? Comment est-ce que vous vous organisez? Évidemment, le temps n'est pas à la révolution et puis à descendre dans la rue pour manifester. C'est vrai, on vous voit peu dans la rue, les étudiants. Traditionnellement, il y a une tradition historique en France quand même de mouvements sociaux étudiants. Comment est-ce que vous arrivez à vous motiver justement? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Je ne sais pas.
Alors, pour les gens qui ne vivent pas seuls, comme moi, j'ai la chance de ne pas vivre seule, donc du coup, j'arrive à me motiver avec l'autre personne en se disant il est 17h, on arrête de bosser, on fait une séance de sport. À la maison, certes, mais on fait une séance de sport quand même. J'ai des amis qui se téléphonent pour faire une séance de sport ensemble, ou qui se disent bon bah là on sort, on va juste se poser dans un parc, on fait le tour de la ville pour marcher un peu, on va chercher un chocolat chaud, puis on discute, on va visiter, les lieux culturels sont fermés mais les églises sont encore ouvertes, on va visiter les églises, les cathédrales, la bibliothèque de la fac parfois aussi. Je pense que maintenir une activité physique, c'est compliqué quand on n'est pas vraiment sportif. Ça peut être compliqué parce que tout est fermé, justement toutes les bases sont fermées. Pour des gens qui sont très sportifs, je pense que ça c'est possible. Mais l'activité physique en elle-même, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui en manquent parce que encore une fois c'est la simplicité, on est dans son canapé, on a le frigo à côté, ou alors il y a la télé devant, c'est beaucoup plus intéressant que de se bouger les fesses pour aller courir ou pour faire une séance à la maison. Donc quand on n'est pas seul, quand on vit pas seul et qu'on a la chance d'être entouré, je pense qu'on arrive à maintenir un certain rythme. Mais par contre, pour les étudiants qui vivent seuls ou isolés, c'est beaucoup plus compliqué, je pense.
Oui, tout à l'heure, vous parlez de ces étudiants, par exemple, que vous connaissez, qui vivent à la campagne. C'est pourquoi c'est plus compliqué pour eux ?
Déjà, tout simplement, au niveau du réseau. Pour suivre les cours, on n'a pas tous la chance de vivre en centre-ville et d'avoir la fibre et de pouvoir suivre les cours correctement. Donc, les problèmes de réseau, ce qui fait qu'il y en a qui loupent le cours, qui arrivent en retard, qui loupent des informations, donc qui se rajoutent du travail en plus pour essayer de tout rattraper. Ensuite, au niveau des interactions sociales, parce que moi, je suis en centre-ville de Tours, donc je descends de mon immeuble et potentiellement, je vois des gens, je peux croiser des gens que je connais, je peux voir des copains qui sont à Tours. Mais j'ai des amis qui sont retournés en campagne chez leurs parents parce que c'est plus simple pour eux. Et en fait, ils sortent de chez eux et ils voient un champ, trois vaches et puis voilà quoi. Donc c'est plus... Enfin, je dis pas que c'est mal, mais c'est compliqué de maintenir une relation sociale quand on est complètement isolé, qu'on a des soucis au niveau du réseau ou qu'on est loin de tout.
D'accord. Votre avis, votre opinion sur la manière dont le gouvernement français, la ministre de l'Éducation gère tout cela ?
Oula. Oui,
c'est un peu compliqué parce qu'il y a des annonces qui ont été faites récemment, mais même j'ai envie, enfin, en remontant depuis l'année dernière, donc lors du premier confinement, quand vous avez commencé à connaître cette situation, jusqu'à aujourd'hui, avec le recul justement. En plus, vous êtes en histoire géo, vous allez pouvoir faire prendre le recul nécessaire. D'un point de vue le plus objectif possible, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise par le gouvernement, de cette crise notamment concernant la prise en charge des étudiants?
Alors, pour la gestion de la crise, en général, je pense que le gouvernement, c'est des humains, c'est pas des robots, et je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent aussi. Je pense que ils sont comme nous, ils n'ont pas forcément réussi à anticiper le truc. Et que ils essayent de tâtonner, ils regardent ce qui marche pas, parce que quand au 21e siècle on n'a pas eu de grandes épidémies comme ça encore, il faut réussir à s'adapter, il faut essayer de comprendre la chose, et même si on a une science qui est très 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 avancée, ça nous permet pas de tout anticiper, on n'est pas des surhommes et le gouvernement non plus, donc je pense qu'ils sont comme nous, et je pense que nous, si on était à leur place, on a beau râler, mais je pense que si on était à leur place, on ferait pas forcément mieux. Donc voilà, il y a quand même des experts qui travaillent. Au niveau des étudiants, je pense que comme tous les étudiants, on s'est senti un petit peu abandonné entre guillemets parce que on n'a pas, enfin un truc tout simple au niveau des allocutions, on n'entendait jamais les étudiants ou alors en toute fin d'allocution pour nous dire continuez, soyez courageux, vous lâchez pas. C'est pas ça qui nous aide concrètement. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place concernant la perte des emplois étudiants parce que c'est une catastrophe. Mais c'est des mesures qui, on le voit bien depuis un an, visiblement sont pas suffisantes parce que la précarité étudiante, elle a jamais été aussi forte. Quand on regarde la Croix-Rouge, par exemple, à Tours, il y a des tonnes d'étudiants qui font la queue devant. C'est pas normal qu'on soit là dans cette situation alors qu'on on est censé juste avoir des conditions nécessaires pour étudier correctement. Ce qui pousse aussi certains étudiants à arrêter pour trouver un autre travail, pour s'en sortir. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui sont derrière et qui nous soutiennent. Donc je pense que les mesures ont pas forcément été très efficaces. Après, pareil, je suis pas très disposée à évoquer une critique parce que je fais pas de politique, je sais pas comment ça fonctionne et je serais bien mal placée de dire que moi j'aurais fait mieux. Mais je pense qu'on s'est sentis tous délaissés et je pense qu'on a dû aussi apprendre nous-mêmes parce que bon, les gens, les lycéens, les collégiens, on leur disait vous faisiez ça, vous faites ci, vous allez au lycée ou au collège de telle heure à telle heure, vous travaillez telle chose. Et en fait, les étudiants, on nous a juste dit vous faites cours en distanciel et débrouillez-vous. Et comme on sait que les facs sont plus dépendantes du gouvernement, enfin de l'éducation nationale, en tout cas, surtout au début, chaque fac faisait un peu ce qu'elle voulait, quand elle voulait, et c'est un peu le bazar, et c'est encore un peu le cas. Ce qui fait qu'il y a des décisions de certaines facs qui sont pas très logiques, parfois. Et du coup, je pense qu'on a beaucoup de mal à se repérer dedans. On sait pas où se mettre, en fait, dans cette crise et dans cette gestion. On sait pas ce qu'on peut faire, on sait pas ce qu'on doit faire. Et on sait pas comment l'année va se terminer pour nous.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'étudier l'histoire et la géographie ?
Ça remonte à très longtemps. Je sais pas, peut-être que je suis un fan de ma famille. J'ai toujours adoré l'histoire. Je m'y suis toujours intéressée depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmenée partout, dans plein milieu, dans plein d'endroits, dans des pays extraordinaires. Du côté géographie, apprendre de la culture, de savoir comment ça se construit, de savoir pourquoi on construit tel habitat à tel endroit et pourquoi le sol il est fait comme ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis au niveau historique, de savoir un peu d'où on vient et comment en fait on en est arrivé à être ce qu'on est aujourd'hui. Et avec le recul de voir qu'en fait c'est souvent des cycles, les choses se répètent. Et en particulier avec le Covid, si on regarde historiquement parlant, les épidémies ont toujours été là. Pareil pour le changement climatique, c'est des choses qui ont toujours existé. Mais vu qu'on est au 21e siècle, c'est intéressant de voir comment les médias prennent possession de ça pour faire toute plein de polémiques et surtout pour faire paniquer et réussir à englober la population. Je dis pas qu'il n'y a pas d'urgence, mais il faut regarder historiquement aussi comment ça s'est passé et dire qu'en fait, on n'est pas, c'est relativement normal.
Est-ce que vous envisagez d'avoir un avenir professionnel en lien avec l'histoire et la géographie ?
Oui, j'aimerais bien être prof, donc je pense que ça a un rapport parce que je veux pas être prof d'autre chose. Et puis on verra si je peux faire de la recherche.
Donc, votre motivation n'a pas changé par rapport
non,
à cette filière.
Non, ma motivation, moi, n'a pas changé.
D'accord. Eh bien, tant mieux.
J'ai de la chance.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation, évidemment, dans vos études.
Merci à vous, je vous en prie.
Nous allons à présent écouter le nouveau président de l'Université d'Orléans, Éric Blanc, qui a été interviewé quelques jours après sa prise de fonction.
Donc ça peut être les fédérations étudiantes, mais aussi les associations d'enseignants. sont pas égaux face à cette crise, et notamment ceux qui viennent d'autres départements ou d'autres régions, enfin sur le maillage français. Et il y a des disparités donc, par rapport au lieu d'habitation d'origine, mais aussi localement par rapport à celles et ceux qui vivent à la campagne, qui ne font plus l'effort de se déplacer, qui n'ont pas de connexion chez eux, pour qui le distanciel est un vrai problème parce que la connectivité au réseau sur le territoire n'est pas la même, il y a encore des zones blanches. Quelle solution est-ce que vous pensez que l'université pourra leur apporter?
Sur les zones blanches, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que là, on n'a pas de, moyen d'accéder aux zones blanches. Alors, il y a eu des fonds de temps que la région a mis dans le transport gratuit pour que les jeunes puissent se déplacer et revenir on va dire, sur les campus. La seule solution viable pour les moyens termes, c'est que les cours reprennent à au moins 50%. Parce qu'on ne pourra pas faire revenir des étudiants pour une demi-journée par semaine. Ils ne vont pas prendre un appartement pour avoir cours juste le matin. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le défendre. Donc pour tous ceux qui sont plus loin, en campagne, même dans d'autres régions, la seule solution pour qu'ils reprennent vraiment l'activité d'étudiant qui étudie, c'est une reprise de cours largement supérieure à 20%. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est évidemment pousser autant qu'on le peut, pour entendu que le ministère réalise qu'il faut monter la jauge à 50%, voire plus si possible. Sinon, on n'arrivera pas à faire revenir ces étudiants.
Alors, j'ai recueilli beaucoup de témoignages d'étudiants et d'étudiantes qui regrettent et qui déplorent de ne plus avoir ces contacts avec leurs enseignants, qui sont à la fois des modèles de savoir, des modèles de sciences aussi, des personnes qui ont beaucoup de ressources et qui ont justement ces compétences pédagogiques pour les leur transmettre, qui donnent l'envie d'avoir envie en quelque sorte, en tout cas qui savent transmettre leur passion pour les différentes disciplines. Ça leur manque beaucoup en termes de motivation. La question que l'on peut se poser, j'ai réussi à voir les témoignages des étudiants et des étudiantes, mais et des enseignants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que maintenant l'avenir des enseignants, c'est d'être derrière un écran, et donc l'aspect pédagogique qui disparaît, parce que les étudiants et les étudiantes me disaient que quand un enseignant parle trop vite, l'enseignant voit bien que les étudiants n'arrivent pas à suivre, ceux qui n'écoutent pas au fond de la classe, et puis un tel à qui on va dire, tiens, tu devrais lire tel autre livre parce que ça pourrait t'intéresser, c'est fini ça?
Alors, quand même, parce qu'un enseignant, vous m'avez un bon.
Oui, alors.
En tant que ça, je faisais mes cours, moi aussi, derrière mon ordinateur. Non, c'est terrible. C'est de déprimer parce que, en fait, on est face à un écran. Souvent, les étudiants n'allument pas leur caméra, donc on ne voit personne. On parle seul face à soi-même. Et alors, nous aussi, les étudiants nous manquent énormément. Alors, quelques-uns d'entre eux, c'est ce que vous connaissez tous, avaient la gentillesse d'allumer leur caméra et même parfois de faire des petites plaisanteries visuelles qui étaient bien agréables. Mais rien ne remplacera le contact humain. Il faut bien voir que dans la phase d'enseignement, il y a, les enseignants connaissent ça, il faut que la mayonnaise prenne, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance qui se crée avec le groupe, et que ce groupe, on va l'entraîner. Et ça, cette ambiance de travail, on ne peut pas la faire en visuel, ça ne marche pas, on va essayer de prendre la bière. De même, un cours, pendant le cours, pendant les TD, on voit sur quel point bloque l'un ou les étudiants, et on va changer le cours, on doit adapter le TD en temps réel, parce que tu tiens ce groupe-là, il y a ça qui n'est pas bien passé, on va le reprendre, ça ne peut pas du tout le faire en visuel. Donc moi, il y a une réelle attente également des enseignants de reprendre leurs étudiants, de travailler avec eux, parce que le manque que vivent les étudiants, beaucoup d'enseignants, dans un chercheur de vie, ils vivent très mal.
Concernant la détresse psychologique, qui est aussi un gros problème que les étudiants connaissent, il y a un rapport qui a été fait d'ailleurs en décembre, de Madame Dufay, je ne me rappelle plus du nom de la personne, qui a été remis à l'Assemblée nationale, qui pointe du doigt les risques que cela va engendrer dans les mois à venir. Déjà, on l'a vu, il y a du décrochage, il y a de la démotivation, il y a certains qui changent de filière, qui abandonnent l'université. Quels sont les moyens que l'université va pouvoir mettre en place pour remédier à cette détresse psychologique des étudiants et des étudiantes?
Sur la détresse psychologique, comment vous l'accueillez, cette programmation de recherche à l'université?
Alors déjà, on aurait apprécié qu'il y ait beaucoup plus de discussions avant le vote et la mise en œuvre, parce que là, on a une loi qui a été construite dans des conditions où les gens étaient enfermés chez eux devant un écran, impossibilité de faire des réunions, impossibilité de faire des commissions, de discuter réellement. Donc ça, c'est quand même très dommage. Même si elle était bien, les conditions dans lesquelles elle a été amenée font qu'il y a la plus grande méfiance. Après, comment on l'accueille? Ben, je dirais qu'elle a été développée surtout pour les grandes universités. Ça change tout. Le public est différent également. On n'a pas à vous évoquer la campagne. On a des publics beaucoup plus variés quand on va de Châteauroux à Chartres. Et donc, il va falloir prendre le temps de bien apprivoiser cette loi, de voir comment on peut en retirer le meilleur pour notre établissement. Là, il y a un travail conséquent. Excellente question. Un tantinet pour vos comptes, mais excellente. J'ai une connaissance de l'université acquise à la fin de ma présence à l'université d'Orléans, mes enseignements à Paris 6, et surtout une philosophie. C'est-à-dire l'idée que c'est un établissement ouvert à tous, qui justement remplit pleinement son rôle d'ascenseur social. Ce que ne font plus vraiment les très grandes écoles, il faut reconnaître. Et en cela, je pense que je connais bien l'objectif de l'université. Essaye de l'entretenir. Mais si vous regardez l'histoire des sciences en général, les grands scientifiques étaient à la fois en recherche théorique et appliquée. Donc, plutôt ça, je trouve que c'est plutôt un avantage pour Polytech et pour l'université pour garder justement cette culture de la recherche et cette culture un peu académique. Et c'est aussi un gros avantage pour l'université d'avoir des formations comme Polytech pour toujours garder à l'esprit ce besoin de professionnalisation. Des étudiants, en ingénieur, mais pas que.
d'université, lieu de culture, lieu de conférence, lieu d'échange, lieu de débat. C'est terminé, ça va aujourd'hui.
Alors,
contestation semble compromise, mais l'impertinence même, souvent l'impertinence des étudiants n'est plus possible, n'est plus permise.
Alors là, vu qu'ils sont plus sur le campus, c'est triste, même pour le temps. Ce n'est pas fini, ça va revivre. On espère bien que ça va revivre. Il est vrai que le fait qu'il y ait plus grand monde sur le campus, ça met énormément de débats. Et c'est pour ça qu'on est tous dans l'attente de le campus revivre. Alors, ce n'est pas de la contestation, on préfère le terme de débat. Si les étudiants ne débattaient pas, si ce n'est pas un rapport qu'on mène au grand public, ce sera quand? Parce que c'est le meilleur moment pour le faire. Et donc, oui, en ce moment, c'est moins vivant. Et c'est pour ça qu'on attend avec impatience le moment plus. Mais il faut surtout pas dire que c'est fini, c'est ce qu'il faut. Vous imaginez une université sans débat.
C'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, les étudiants qui ne descendent pas dans la rue, c'est pourtant une tradition française, régulièrement quand même. Oh, à chaque fois qu'il a eu la loi de programmation de la recherche, on peut penser à la loi de réforme des universités, je pourrais vous en citer plein d'autres. Tous les 3 à 5 ans, les étudiants descendent dans la rue, et malgré la gravité de la situation, ça n'a pas été le cas.
Ils sont venus dans la rue il y a, on ne pas dire de bêtises, 3 semaines, devant le rectorat. Bon, ils n'étaient pas, nombreux, mais ils sont descendus dans la rue, justement, pour demander à revenir dans les campus. Mais ce que vous évoquez, je pense que c'est plus un symptôme de leur mal-être. C'est-à-dire qu'avoir des étudiants qui, effectivement, ne contestent plus, c'est plus un symptôme de mal-être généralisé que de tendance durable. J'espère que ce symptôme disparaîtra avec la fin de cette crise. Mais il serait vraiment terrible que des étudiants qui débattent et qui remettent en cause notre quotidien.
Merci.
Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur le Bondy Bloc Centre.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Bloc Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Bloc Café.
Bondy Bloc Centre.
Bondy Bloc Café.
Rejoins la rédaction
www.bondybloccentre.fr.